Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Même si les salles sont fermées, il y a plein de choses à vous raconter. Aujourd'hui, actualité oblige, on va revenir sur la représentation des présidents américains au cinéma. Aux États-Unis, c'est même un genre à part entière. On appelle ces films les presidential movies, du thriller politique au biopic, en passant par la comédie satirique. On vous raconte tout et ça vous donnera aussi sans doute des idées de films à voir ou à revoir en DVD, VOD pendant ce confinement. 14h30, les films de ma vie, c'est le romancier David Fuenquinos qui nous parlera aujourd'hui de ses souvenirs cinéma. Et puis juste après, on accueillera nos critiques pour débattre aujourd'hui du film Les Parfums qui sort en DVD, VOD, tout comme L'Ombre de Staline qui avait d'ailleurs connu un beau succès lors de sa sortie en salle. On débattra aussi de Lands of Murders. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro de Clap et tout de suite donc notre récit consacré à la représentation du président américain au cinéma.
Europe 1. Le récit.
Joe Biden devrait donc devenir le nouveau président des États-Unis. Mais de quelle façon sera-t-il représenté dans quelques mois au cinéma ? La question peut se poser car Hollywood est très friand des presidential movies. Une étude montre que plus de 430 films américains parlent de leur président directement. Il y a même un classement. Alors Abraham Lincoln a été représenté dans 44 films, dont un signé Steven Spielberg.
Le Congrès ne doit jamais déclarer égaux ce que Dieu a créé inégaux.
On va essayer de faire passer l'amendement pour abolir l'esclavage. Personne n'est aimé autant que toi par son peuple. Ne gâche pas ce pouvoir.
Je suis le président des États-Unis doté d'immenses pouvoirs.
Lincoln est joué par Daniel Day-Lewis. Et Spielberg a décidé de se concentrer sur les derniers mois de son mandat de président lorsqu'il a voulu signer le 13e amendement qui abolit l'esclavage. Lincoln représentait 44 fois donc, 24 pour George Washington, 22 pour Theodore Roosevelt. Alors si on revient quelques décennies en arrière, il est intéressant de noter que le président était alors représenté comme le garant de la nation et de ses valeurs. Dans Vers sa destinée, sorti en 1939, John Ford revient lui aussi sur Abraham Lincoln, mais il choisit de le raconter lorsqu'il était étudiant en droit, en 1832 dans l'Illinois. C'est une belle fermière, Anne, dont il est tombé amoureux, qui lui fait jurer, juste avant de mourir, d'utiliser tous ses talents et son éloquence pour servir le pays.
No, Mr. Lincoln. I'm here for the sole purpose of seeing justice done. Justice.
Sauf que les États-Unis et son cinéma donc vont être frappés par un scandale encore dans tous les esprits, celui du Watergate, qui va pousser Nixon à démissionner en 1974. C'est ce moment clé qui va changer la vision que le cinéma américain a de ses présidents. D'ailleurs, 3 ans plus tard, le Watergate est porté à l'écran dans Les Hommes du Président. Dustin Hoffman et Robert Redford jouent les deux journalistes qui ont révélé le scandale.
Vous avez vu les derniers résultats du sondage d'opinion ? La moitié du pays n'a jamais entendu le mot de Watergate. On s'en fout comme d'une guigne. Il est vrai qu'il n'y a pas grand-chose en jeu, excepté le premier amendement de la Constitution, les droits de l'homme, la liberté de la presse et peut-être même l'avenir des États-Unis.
Quelques années plus tôt, un autre événement avait choqué la société américaine. L'assassinat du président Kennedy. Là aussi, cet événement va marquer le cinéma américain, qui n'aura de cesse de représenter leur président comme étant victime d'un complot ou de menace. Dans 7 jours en mai, par exemple, avec Kirk Douglas, on est en 1980, USA et URSS tentent de mettre fin à la guerre froide, mais un général veut tout faire capoter par un coup d'État. D'ailleurs, les plus grands réalisateurs se sont frottés aux presidential movies. Ron Howard avec Frost, Nixon, L'Heure de Vérité. Spielberg aussi avec Lincoln, on en a parlé. Kubrick avec Docteur Folamour, dans lequel le président s'appelle Meufflé. On peut aussi parler d'Oliver Stone avec son W sur Bush. Et pour le plaisir, il faut aussi se rappeler qu'en 2012 est sorti, en parallèle du biopic de Spielberg, un autre film sur Lincoln, mais dans un tout autre style. Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Le résumé, lorsqu'Abraham Lincoln découvre que les vampires assoiffés de sang se préparent à envahir le pays, il jure de les éliminer les uns après les autres.
Sois maudit !
À coups de hache.
Les vampires infestent le Nouveau Monde depuis des siècles, décimant les tribus indigènes et les premiers colons. Et c'est à nous, Abraham, à nous les chasseurs, qu'il incombe d'établir l'équilibre, afin que cette nation demeure une nation d'humains et non de monstres.
Et les deux ont d'ailleurs très bien marché au box-office. Alors si on déroule la liste des films, le président s'est retrouvé dans tous les styles. La comédie, dans Président d'un jour, un sosie est embauché pour remplacer le président le temps que ce dernier, victime d'un AVC alors qu'il était avec sa maîtresse, sorte du coma.
Monsieur Kovic, je m'appelle Dwan Stevenson, agent spécial service secret. Nous travaillons pour le gouvernement.
Écoutez, je vous jure, je croyais que j'avais le droit de la déduire. Je suis imitateur alors, je me sers de la télé.
Monsieur Kovic, nous ne sommes pas inspecteurs du Trésor. Le gouvernement a besoin de vous.
Dans Mars Attack de Tim Burton, le président Dale, incarné par Jack Nicholson, doit gérer une attaque de martiens. Alors jusqu'au bout, il restera persuadé qu'il doit rester tolérant avec eux, mais il finira tué par le chef martien après un discours devenu célèbre.
Pourquoi est-ce que vous faites ça? Notre univers n'est-il donc pas assez vaste? À quoi bon être ennemi? Songez à tout ce que nous pourrions faire. La Terre et Mars. Nous avons le choix entre la réussite ou alors l'échec le plus total.
Dans ce film, d'ailleurs, les Martiens s'en prennent à l'Amérique et à son orgueil national et ridiculise cet empire dans sa prétention et sa puissance. Alors avec l'élection de Donald Trump en 2016, la fiction a rattrapé la réalité, du pain béni pour certains réalisateurs, comme Sacha Baron Cohen qui vient de sortir un nouveau volet de Borat, vous savez ce journaliste kazakh, avec McDonald Trump et Mike Pence. Donald Trump a dit qu'il n'aimait pas ce film, Sacha Baron Cohen y voit la meilleure des pubs.
Comme le président l'a encore dit hier, nous sommes prêts. Je suis actuellement
Michael
sur le point de...
Michael Pennis, j'ai apporté une fille pour toi. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas jalouse. Elle n'est pas Ivanka.
Dégage.
Mike, tu es viré.
Et puis enfin, il y a le président américain, sauveur du monde, quasi invincible. Dans Air Force One, par exemple, le président, incarné par Harrison Ford, rentre à Washington à bord de l'Air Force One en compagnie de sa femme, de sa fille et de son cabinet. Mais des terroristes investissent l'appareil et séquestrent les passagers.
C'est presque terminé, monsieur le président. Tu as fait une petite erreur quand tu as tué mon pilote, monsieur le président. Il n'y a plus personne pour piloter l'avion. Et il n'y a plus aucun parachute. Quoi qu'il arrive, maintenant, tu auras perdu. Et je l'ai gagné.
Dans ce film, Harrison Ford lance des bombes, saute sur les méchants et surtout combat à main nue. Mais au fait, pourquoi nous n'avons pas l'équivalent avec nos présidents français? Certes, un biopic consacré au général de Gaulle avec Lambert Wilson est sorti il y a quelques mois, mais il était bien sage. Anne Fontaine aussi prépare un film avec Dujardin en Nicolas Sarkozy et Grégory Gadebois en François Hollande. Mais là encore, pas de combat à main nue ou de martien. Alors tout ça, on va en parler dans un tout petit instant dans la suite de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma, avec notre invité Didier Blanc, professeur de droit public, auteur de La figure du président dans les cinémas français et américain. Mais on écoute d'abord Renaud le déserteur, cette lettre justement adressée au président.
14h-15h sur Europe 1, Clap.
Monsieur le président, je vous fais une bafouille que vous lirez sûrement si vous avez des couilles. Je viens de recevoir un coup de fil de mes vieux pour me prévenir que les gendarmes s'étaient pointés chez eux. J'ose pas imaginer ce que leur a dit mon père, lui, les flics, les curés, et puis les militaires, les a vraiment dans le nez, peut-être encore plus que moi, dès qu'il peut en bouffer, le vieil anard, il se gêne pas. Le vieil anard, il se gêne pas. Alors il paraît qu'on me cherche, que la France a besoin de moi, c'est con, je suis en Ardèche, il fait beau, tu le crois pas, je suis là avec des potes, des écolos marrants. On a une vieille bicoque, on la retape tranquillement. On fait pousser les chèvres, on fabrique des bijoux. On peut pas dire qu'on se crève, le travail c'est pas pour nous. On a des plantations pas énormes, 3 hectares, d'une herbe qui rend moins con. Non, c'est pas du Ricard. Non, c'est pas du Ricard. Je suis un déserteur de ton armée de glands, de ton troupeau de branleurs. Ils auront pas ma peau, toucheront pas mes cheveux. Je saluerai pas le drapeau, je marcherai pas comme les bœufs. J'irai pas en Allemagne faire le con pendant 12 mois dans une caserne infâme avec des plus cons que moi. J'aime pas recevoir des ordres, j'aime pas me lever tôt, j'aime pas étrangler le borgne plus souvent qu'il ne faut. Plus souvent qu'il ne faut. Puis surtout, ce qui me déplaît, c'est que j'aime pas la guerre. Et qui c'est qui l'a fait? Ben, c'est les militaires. Ils sont nuls, ils sont moches, et puis ils sont teigneux. Maintenant, je vais te dire pourquoi je veux jamais être comme eux. Quand les Russes, les Ricains font péter la planète, moi, j'aurai l'air malin avec ma bicyclette. Mon pantalon trop court, mon fusil, mon calot, ma ration de topinambour et ma ligne Maginot. Et ma ligne Maginot. Gonfle pas, ni moi, ni tous mes potes. Je serai jamais soldat, j'aime pas les bruits de bottes. T'as plus qu'à pas t'en faire et construire tranquillos tes centrales nucléaires, tes sous-marins craignos. Et va pas t'imaginer, monsieur le président, que je suis manipulé par les rouges ou les blancs. Je ne suis qu'un militant du parti des oiseaux, des baleines, des enfants, de la terre et de l'eau. De la terre et de l'eau. Pour finir ma bafouille, je voulais te dire simplement que ce soir on fait des nouilles. À la ferme c'est le panard, si tu veux viens bouffer. On fumera un pétard et on pourra causer. On fumera un pétard et on pourra causer.
Le Déserteur, signé Renaud dans Clap, votre émission cinéma sur Europe 1. On se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de ce récit consacré au président américain sur grand écran. On va accueillir notre invité pour approfondir un peu notre réflexion. À tout de suite.
Clap, Mathieu Charrier.
Et on est toujours ensemble dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma, avec un récit consacré aujourd'hui à la figure du président, notamment américain, au cinéma. Et pour approfondir notre réflexion, j'ai le plaisir de recevoir Didier Blanc. Bonjour.
Bonjour.
Professeur de droit public, auteur de la figure du président dans les cinémas français et américains. Alors d'abord, Didier Blanc, pourquoi il y a autant de films sur les présidents américains et finalement si peu sur les présidents français ?
Alors la réponse est multiple. D'abord, on peut commencer par indiquer que le cinéma présidentiel n'est pas un genre en soi. C'est-à-dire qu'on va avoir la figure du président qui va apparaître dans toute une série de catégories de films, la comédie de mœurs, la parodie, le thriller, le film d'espionnage, le film de guerre, etc. Et la puissance du cinéma américain fait que la principale figure des États-Unis va se retrouver. Donc on a une conjonction à la fois avec ce cinéma très puissant et cette figure qui incarne véritablement les États-Unis, qui est le président des États-Unis, et si bien que c'est impossible de dénombrer tous les films qui sont consacrés au président des États-Unis et encore plus les films dans lesquels il va intervenir d'une certaine manière comme un élément de décor ou comme un second rôle. Et sur le registre français, on a une approche qui est complètement différente, même si depuis quelques années, il y a eu plusieurs films consacrés au président de la République, mais on est effectivement sur une approche qui est très très différente et qui tient à la fois au cinéma et à la vie politique et institutionnelle des États-Unis et de la France.
Parce qu'aux États-Unis, c'est vrai que dans les films américains, le président est même souvent là quand il y a une décision à prendre, où on le voit en arrière-fond, quoi. C'est-à-dire qu'on voit parfois juste des plans du bureau ovale, où il y a toujours cette figure qui plane au-dessus des films, alors qu'en France, très peu.
Oui, très peu. Alors en France, cela étant, on a eu une certaine manière une américanisation du cinéma français, et on se souvient qu'au début des années 2010, il y a eu plusieurs films, il y a eu Pater, L'exercice de l'État, La conquête du pouvoir, Le promeneur du champ de Mars, etc. Donc c'est moins vrai, mais peut-être que cette séquence-là est close. En revanche, c'est vrai que sur le temps long, d'une certaine manière, la figure du président n'a pas quitté les écrans des États-Unis, d'abord parce que il fait nation d'une certaine manière, il incarne la nation. L'un des films fondateurs du cinéma américain, donc Naissance d'une nation en 1915, place déjà la figure de Lincoln, et on a des figures qui d'une certaine manière sont un condensé de l'histoire des États-Unis. Donc Lincoln pour la guerre de sécession, plus près de nous Kennedy, Nixon avec le Watergate, Walker, George Bush également aussi. Donc on est effectivement sur cette persistance et et permanence du président des États-Unis dans un grand nombre de films. Et on peut au moins trouver trois raisons à cela. La première, c'est qu'il est le commander in chief. Hein. On le voit par exemple, même s'il est comme en second plan dans Zero Dark Thirty, on voit la figure du président Obama. Ensuite, c'est le chef de la puissance mondiale qui vient d'une certaine manière. Là, vous parliez tout à l'heure de l'ombre de Staline. Bien précisément, on a tout un contexte de la guerre froide ou de l'invasion des extraterrestres avec Mars Attack, où le président des États-Unis est le sauveur du monde libre. Et puis ensuite, il y a une lecture plus interne, c'est-à-dire que c'est une terre d'émigration, les États-Unis, et il permet justement de cristalliser l'adhésion au récit des États-Unis, la figure politique des États-Unis, son système constitutionnel par l'élection. On a beaucoup de films sur la campagne, sur le rôle du président. D'une certaine manière, ça renvoie, si vous voulez, à une sorte de catéchisme, si vous voulez.
Mais c'est ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi un attachement des Américains plus fort à leur président? Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on a l'impression qu'aux États-Unis, voilà, la figure.
Si vous voulez, initialement, on sait très bien que dans nos beaux vitraux de cathédrale, on racontait les évangiles et la Bible. Mais là, on a cette civilisation de l'écran aux États-Unis, de l'image. Et la vie politique institutionnelle va être racontée par cette figure-là du président des États-Unis qui va la concentrer. Alors, on a les campagnes. On a récemment Dead Zone qui repasse à la télévision, qui est un film où on voit en arrière-plan la campagne. Il y a aussi Taxi Driver, où il y a aussi l'arrière-plan de la campagne électorale qui apparaît. Donc on a deux grands films qui essaient de raconter ce récit politique avec, on le voit dans l'actualité, avec une dramaturgie qui se prête parfaitement à cette élection-là. Donc on a là aussi des éléments de compréhension qui tendent à montrer cette centralité du président des États-Unis dans un nombre considérable de films.
Je crois même qu'il y a un décor du bureau ovale qui existe à demeure à Hollywood, qu'on peut prendre très facilement. Il y a tellement de scènes qui se tournent dedans qu'il est toujours monté.
Oui, exactement. Et alors, on a effectivement des lieux qui représentent la figure. Là, c'est une métaphore. Donc, on a... Bon, ça, c'est très célèbre. On y pense tous, même si elle est assez peu présente. C'est le Mont Rushmore, par exemple, ou dans La Mort aux Trousses. On voit là qu'il y a un arrière-plan. On a donc le bureau ovale, vous l'avez dit. Il y a le mémorial Lincoln aussi, où parfois, c'est très rare, mais dans la Nuit au Musée 2, la statue de Lincoln s'anime. Dans le premier, c'était Theodore Roosevelt sur son cheval qui s'animait. Donc là, il y a vraiment le président mort qui prend vie. Donc ça donne lieu aussi à des scènes et à une fiction que permet tout à fait le cinéma. Et aujourd'hui, on a des figures un petit peu nouvelles qui concentrent cette métaphore du président. Ça va être par exemple Air Force One, donc l'avion présidentiel, ou même, puisque je parlais de Zero Dark Thirty, la War Room, qui est un concentré de la puissance militaire des États-Unis où des décisions vont être prises. Donc il y a un raccourci, si vous voulez, dans la vie politique, dans la vie diplomatique des États-Unis, qui se prête parfaitement à cette image du président en situation, s'il faut se dire.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça va être plus dur ces prochaines années de représenter par exemple Donald Trump ? Parce qu'il est déjà tellement extrême dans la vraie vie qu'on se dit qu'un personnage de cinéma ne va pas pouvoir nous dire grand-chose de plus.
Oui, c'est sans doute vrai, mais la puissance du cinéma aux États-Unis en particulier, c'est de tisser ce lien entre la fiction et la réalité. De manière étonnante, peu le savent, mais la personne qui a commis l'attentat sur Reagan au début des années 80 a dit qu'il s'était inspiré du film donc de Scorsese, Taxi Driver. Mmh. On a des films qui ont annoncé donc très tôt en 72 l'élection d'un président noir. Il y a eu plus tard aussi l'élection d'une femme, et on a même récemment, au moins trois ou quatre films qui ont annoncé le poids des médias dans l'élection aux États-Unis. Et on a des animateurs de télé, c'est le cas de l'actuel président, donc Donald Trump, qui ont été élus par cette puissance médiatique. Donc on a à la fois cette civilisation des médias, des écrans, et le rôle de la télévision en particulier et des médias dans la désignation du président des États-Unis se prête complètement à un récit cinématographique. Donc effectivement, la fiction et la réalité sont mêlées de manière presque troublante, puisque donc dans ce film qui annonce l'élection d'un président qui est un ancien animateur de télé, il est élu parce qu'il y a eu des difficultés sur le vote à distance, sur le vote électronique. Donc ce sont des choses qui sont assez, assez troublantes.
C'est là que le cinéma rejoint la réalité et vice-versa. Merci beaucoup en tout cas Didier Blanc d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Clap, professeur de droit public, et j'invite nos auditeurs à lire votre article, La figure du président dans les cinémas français et américains, qui nous a pas mal inspiré pour ce récit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie, au revoir.
Et nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de votre émission cinéma. C'est l'heure du questionnaire des films de ma vie. Aujourd'hui, c'est le romancier David Fuenquinos qui va partager avec nous ses souvenirs de cinéma.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et on se retrouve maintenant dans Clap pour les films de ma vie. Vous connaissez le principe, une personnalité qui répond à un questionnaire de Proust, mais version cinéma. Et cette semaine, c'est le romancier David Fuenquinos qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
À l'occasion de la sortie de votre nouveau roman qui s'appelle La famille Martin, que j'ai terminé hier soir d'ailleurs, et dont on imagine assez bien une adaptation au cinéma, c'est prévu ?
Pas pour le moment. C'est vrai que j'ai pas mal de livres qui ont été adaptés, mais celui-ci, pas encore. Et moi, c'est pas une obsession pour moi, les adaptations, donc ça me gênerait pas qu'il n'y en ait pas une.
Parce que vous pourriez presque jouer votre propre rôle de ce romancier qui prend une famille au hasard dans la rue et va raconter toute son histoire.
Oui, complètement. C'est une sorte de double littéraire, puisque le point de départ, c'est ça. C'est un écrivain qui en a marre de la fiction. Il décide de descendre dans la rue et d'arrêter la première personne qu'il croise. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai fait. Et j'ai rencontré une femme âgée de 82 ans qui est dans mon quartier. Puis c'est le point de départ de mon intrusion dans la famille Martin.
Alors, on y va. Vous êtes prêts pour notre questionnaire ?
Avec plaisir.
Votre premier souvenir de cinéma ?
Alors, mon premier souvenir est assez particulier, puisque c'est mon oncle Alain qui m'a emmené voir Diva à l'âge de 6 ans, Diva de Benex. Donc autant dire que je n'ai absolument rien compris, mais en même temps j'étais hyper flatté de voir un film d'adulte et j'en ai un souvenir forcément incroyablement marquant de l'atmosphère, de l'ambiance, et je l'ai revu plusieurs années après et c'est vrai que c'est le premier film, c'est inoubliable.
La baguette, le couteau, pas trop mince mais pas trop épais. La mie, fraîche, pas trop. Ah, c'est tout un art. On nous envie dans le monde entier pour ça. Nous autres, les Français, le zen dans l'art de la tartine.
Votre meilleur souvenir en salle ?
Mon meilleur souvenir, c'est un peu plus tard. C'est vraiment à la grande époque, à la grande folie du Grand Bleu de Luc Besson. Mmh. Les gens ont oublié, mais c'était complètement dingue. Moi, j'avais à ce moment-là 15 ans et je suis allé voir 8 fois le Grand Bleu. Et au Grand Rex, c'était exactement comme si on allait voir Lady Gaga. C'était complètement fou, c'est-à-dire que les gens criaient. Dès qu'il y avait le générique du début, ça applaudissait à chaque prénom. On riait. Enfin, il y avait un truc de fan attitude que j'ai jamais retrouvé sur aucun autre film. Et c'est vrai que ça a été une époque assez magique.
Alors, t'es pas marié. T'as bien raison. Tu profites de la vie, comme moi. Une fille dans chaque port, hein.
On est les hommes, après tout.
Mais comment ? Mais il y en a qui disent que tu ressembles plus à un poisson qu'à un être humain. Laisse tomber, c'était une blague.
Votre pire souvenir en salle, David Fuenquinos ?
Alors, c'est pas un souvenir lié au film, mais à la peur. Là aussi, il faut imaginer que moi, je suis né en 1974, donc pas de DVD, pas de film à la maison. Donc, à l'âge de 8 ans, ma grand-mère m'a emmené voir E.T. et j'avais jamais vu un film comme ça. Alors maintenant, ma fille qui a 6 ans adore voir E.T., elle a aucun problème, elle est très tranquille par rapport à ça, mais moi, je me souviens avoir crié et être sorti de la salle immédiatement dès que j'ai vu l'apparition de E.T.
Je veux le garder avec moi.
Qu'est-ce que c'est ?
Il est très gentil, Gertie. On ne te fera aucun mal.
C'est une fille ou un garçon ?
C'est un garçon. Mais écoute, il ne faut rien dire. Même pas maman.
Le film culte que vous n'avez jamais vu.
Alors, je devrais pas le dire, mais c'est Le Guépard. Voilà. Mais alors, il y a des films cultes comme ça. En plus, j'adore Visconti. Morin Venise, c'est un film que j'ai vu vraiment de nombreuses fois. Mais Le Guépard, je me suis rendu compte en préparant votre émission que j'avais l'impression de l'avoir vu, puisque on connaît tellement les images. On voit Delon dans ce bal, on voit Lancaster. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, je l'avais jamais vu.
Pourquoi es-tu habillé ainsi ? Qu'est-ce qui t'arrive ?
Je m'en vais, mon oncle. Je pars dans une heure. Je suis venu te dire adieu.
Adieu? Pourquoi? Pas un duel?
Si, le plus grand des duels. Un duel avec le roi de Naples, avec François le Petit. De grandes choses se préparent et je n'ai pas envie de rester les bras croisés à la maison.
La plus belle scène de cinéma, selon vous?
La plus belle scène, il y en a tellement. C'est difficile de choisir ça, mais je dirais une scène des choses de la vie de Claude Sauté. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus dur au cinéma que de filmer le bonheur, la simplicité du bonheur. C'est toujours très casse-gueule. Et donc, il y a une scène comme ça où ils sont dans la chambre, Piccoli, Romy Schneider. C'est magique, c'est simple. Elle a les épaules dénudées, elle se lève à un moment donné, elle est en train d'écrire sur une machine à écrire et il tape quelque chose sur la machine à écrire et quand elle revient s'asseoir, elle lit simplement une déclaration.
Qu'est-ce que tu fais ?
Je te regarde.
Une idée simple, une beauté, une fulgurance. Voilà, pour moi, c'est avec une économie absolue l'expression du bonheur le plus total. Et cette scène me fascine.
Le film qui vous a fait le plus rire, David Foenkinos?
Il y en a beaucoup. Moi, je suis assez bon public, mais je pense que tellement proche de Nakash Toledano, c'est pour moi un sommet. Et en même temps, c'est un film qui me touche beaucoup. Il me fait pleurer à la fin quand on est dans la relation père-fils. Mais je trouve qu'il touche comme ça un humour qui me, voilà, qui moi, résonne en moi. Tous les personnages me font rire, le duo de maison Audrey Dana dans cette banlieue à Créteil dans les immeubles qui ressemblent à des choux. Il y a plein de répliques que je trouve hilarantes. Il y a une énergie, ce sont vraiment Nakash Toledano, vraiment je les admire profondément et c'est une vraie référence pour mon frère et moi.
Salut Juppé.
Bonjour Étienne, bonjour Colette.
On est venu vous faire un petit coucou.
Quelle bonne surprise.
Ça tombe bien que tu sois là parce qu'avec papa, on voulait parler de la cuisine américaine.
Oui, mais là, je peux pas. Faut que je fige une grosse audience.
Mais vas-y, hein, y a pas d'urgence, ils sont là pour quelques jours.
Ah bon? Ça dérange pas, j'espère.
Mais ils sont là accrochés comme des moules.
Mais Colette, ma belle-mère, Colette qui a une passion pour mes slips.
Mais l'hernie, vous ou quoi? Vous partez tôt demain, c'est ça?
Ah non. Ils vont rester encore quelques jours.
Ça dérange pas, j'espère.
Bah, un peu quand même.
Et le film qui vous a fait le plus pleurer?
Je dirais, après avoir eu un enfant, c'est Kramer contre Kramer. Voilà, j'ai un fils de 18 ans, mais je me souviens avoir vu Kramer contre Kramer quand mon fils avait 5-6 ans. Mais c'est un tire-larme absolu, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de progression narrative absolument magique et bouleversante dans ce film. On est progressivement attrapé par ce que ressent Dustin Hoffman, par l'émotion de Dustin Hoffman, par le rapport qu'il développe à son fils. C'est d'une force inouïe. Et c'est vrai qu'à la fin, quand Meryl Streep revient pour prendre l'enfant, c'est insoutenable d'émotion et c'est vrai que je me souviens avoir beaucoup pleuré.
Monsieur Kramer, au printemps de l'an dernier, avez-vous, oui ou non, manqué une date de remise avec la Mid-Atlantique, mettant non seulement votre agence dans une situation pénible, mais lui créant aussi un grave préjudice financier?
Ce jour-là, j'ai dû rentrer parce que mon enfant était souffrant.
Monsieur Kramer, avez-vous, oui ou non, manqué une date de remise, oui ou non?
Mon fils était malade.
Monsieur Kramer, répondez à la question.
Mais j'essaye de répondre à la question, ce n'est pas oui ou non. Moi, j'étais là dans
Monsieur
mon service.
Monsieur Kramer,
et lui,
non.
Il avait 40 de fièvre à la maison et il était au lit, tout en âge. Je suis rentré pour être avec mon gosse. Qu'est-ce que vous auriez fait?
Monsieur Kramer, je vous enjoins de vous prendre, sinon je vous condamne pour outrage à magistrat.
Et la bande originale qui a le plus marqué votre vie, David Foenkinos?
Alors, c'est pas du tout pour parler de moi ou de mes films, mais c'est vrai que la relation que j'ai pu avoir avec Émilie Simon sur notre film La Délicatesse, c'est la bande originale la plus importante pour moi parce que ça a été magique de collaborer avec elle. Mais sinon, voilà, il y a tellement de musique que j'aime, que ça soit Morricone dans Les Incorruptibles ou toutes les musiques de Philippe Sard, de Georges Delerue. Et j'aime bien, ça me fait penser aussi à Miles Davis devant Ascension pour l'échafaud. J'aime bien les musiques qui ont l'air d'être composées face aux images, presque improvisées comme une errance note par note.
Eh bien, on va l'écouter, la bande originale de ce film que vous avez co-réalisé avec votre frère Stéphane. C'est donc Émilie Simon, extrait de la BO du film La Délicatesse et ce titre Mon Chevalier dans Clap sur Europe 1. Thank you. ben merci David Fuenquinos de nous avoir rendu une petite visite dans Clap.
Avec plaisir.
Je rappelle donc votre dernier roman, La famille Martin, chez Gallimard. Même si les librairies sont fermées, il y a du click and collect, il y a plein de choses. Donc faut pas hésiter, ça permet de passer le temps en bonne compagnie pendant ce confinement. Merci en tout cas.
Merci, à bientôt.
Et nous, on se retrouve dans un petit instant pour la suite de Clap, le temps d'accueillir mes collègues critiques et on va débattre des films sortis cette semaine en DVD et VOD.
Clap, Mathieu Charrier.
Et ils sont entrés en studio masqués, comme il se doit, pour parler des films à voir, revoir ou pas, d'ailleurs, en DVD, VOD. Autour de la table aujourd'hui, Fabrice Leclerc de Paris Match et Thierry Chaise de Première. Messieurs, bonjour.
Bonjour, vous nous reconnaissez quand même.
Ça va.
Ça va.
Quoique,
vous savez différencier
l'un de l'autre. Je pourrais inverser les deux, finalement.
On a les mêmes lunettes.
Alors aujourd'hui, on va débattre du film Les Parfums, de l'ombre de Staline et de Lance of Murders. On commence donc par Les Parfums de Grégory Margne avec Emmanuel Devos et Grégory Montel.
Tu m'aimes bien ?
Non, c'était au sujet de Valberg.
Tu sais qu'elle m'a déjà envoyé 3 chauffeurs. Hein.
Ah bon ?
Vous allez m'aider à changer les draps.
Mademoiselle Valberg, je suis chauffeur. Je suis pas là pour changer vos draps. Pourquoi vous avez raconté à Arsène que vous vouliez que ce soit absolument moi qui vous conduise ?
Et vous, pourquoi vous êtes revenu ?
Parce que j'ai pas le choix. Parce que j'ai une petite fille de 10 ans et que si je veux la garde partagée, bah, j'ai besoin de ce travail.
Les parfums qui nous plongent dans l'univers des nés, vous savez, ces hommes et femmes surtout qui créent des odeurs. En l'occurrence, c'est Emmanuelle Devos. Elle joue Anne Valberg, plébiscitée dans le monde des nés. Et elle vend ses services au plus offrant. C'est vraiment une diva, faut l'imaginer. Et elle vit reclue chez elle, rideau toujours fermé, pour ne pas que la lumière altère éventuellement son odorat. Et Anne Valberg vient d'être missionnée pour créer une odeur dans une grotte que le public pourra bientôt visiter. Pour s'y rendre, elle fait alors appel à un chauffeur, Guillaume, c'est Grégory Montel, popularisé pour son rôle de Gabriel dans la série 10%. Vous me voyez arriver, ces deux êtres que tout oppose au départ vont s'apprivoiser, c'est un petit peu attendu, mais il se dégage quand même, je trouve, une certaine douceur de ce film, un univers aussi. Thierry Chaise, qu'en avez-vous pensé ?
Je suis entièrement d'accord. Ah. Je suis entièrement d'accord. Là, le scénario tient en effet sur, mais vraiment une, sur deux lignes, quoi. Et moi, j'avais beaucoup aimé déjà le précédent film L'air de rien de Grégory Magne, déjà avec Grégory Montel, c'est d'ailleurs là, moi, que je l'avais vraiment découvert. Et c'est pareil, ça joue sur des toutes petites choses. Alors oui, une histoire d'amour va se développer, mais c'est une histoire d'amour entre deux personnages finalement brisés. Elle, qui a, on a l'impression, sa carrière de nez derrière elle, et lui, qui a surtout un combat, c'est la garde de sa fille. Et il doit à tout prix...
Gagner de l'argent.
Gagner de l'argent, quoi qu'il arrive. Et donc supporter cette femme, qui en effet est désagréable, parce qu'elle-même se déteste d'être tombée. Et je trouve que dans le, justement, dans cet accord entre les deux... Ça fonctionne, alors ça ne réinvente pas le genre, mais ça tient pour les deux acteurs. Emmanuelle Devos, qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir dans des personnages aussi antipathiques au départ, et Grégory Montel, qui, moi je trouve, n'est pas toujours bien utilisé par le cinéma depuis 10%, et là, parce que je crois vraiment ce réalisateur, Grégory Magne, le connaît, eh bien il lui permet d'aller vers aussi des choses un peu plus violentes par moment. Donc moi j'ai été charmé par le film.
Eh bien, dites donc, Fabrice Leclerc, c'est parfum.
Pour surfer un peu sur l'actualité, je dirais que c'est sûrement un film non essentiel. Après, c'est très intéressant de voir un film sur les nés, surtout en ce moment. Pensons à eux aussi. Non, ben moi, je suis tout à fait d'accord avec Thierry. J'aurais dit exactement ce qu'il a dit. C'est un tout petit film, mais c'est une belle comédie romantique. Grégory Montel, je suis d'accord, est tout à fait sous-utilisé au cinéma. C'est un grand talent.
Parce qu'il joue toujours un peu ses rôles de grand abattu.
Oui, mais on ne voit de lui que 10%, alors qu'il est relativement limité en gamme de jeu dans 10%, alors que c'est un acteur beaucoup plus, beaucoup plus fin. Non, c'est un film très mignon, même Emmanuel Devos est plutôt pas mal, c'est bien écrit, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais en ces temps de pandémie et de confinement, je pense que c'est un film qui peut faire beaucoup de bien et puis faire retrouver l'odorat aussi.
Oui, ça c'est sûr. Non, mais c'est vrai que vous mettez ça un soir tranquillement dans votre salon, et honnêtement, vous allez passer un bon petit moment.
Un feel-good movie, et feel-good movie, quoi.
Et il fait partie des films qui avaient bénéficier d'un certain succès au moment de la ressortie du premier.
Parce qu'il était sorti avant le premier confinement, puis ressorti après.
Au moment des jours heureux.
C'est ça,
dans
finalement.
Les jours heureux, ça avait été un vrai succès.
Voilà pour Les Parfums, signé Grégory Magne, qui sort donc en DVD et VOD.
Clap.
Alors, deuxième film qui sort aussi DVD, VOD, sur lequel je voulais qu'on revienne, c'est L'Ombre de Staline.
Voilà mon rapport sur le miracle soviétique.
Quelle réponse donnez-vous ?
Je n'en ai pas. Les caisses du Kremlin sont vides. Et pourtant, ils dépensent sans compter.
Paul Kleb est mort.
Sur quoi travaillait-il ?
L'Ukraine.
Le trésor de Staline.
Avec cette réalisatrice qui revient sur l'histoire d'un journaliste gallois qui, au début des années 30, a dénoncé la famine en Ukraine organisée par Staline. Alors dans le film, il s'appelle Gareth Jones. Et après avoir obtenu une interview d'Hitler, il se dit tiens, je vais tenter de décrocher un entretien avec Staline, qui lui sort une belle parole selon laquelle la Russie est prospère, l'opulence de mise, notamment à Moscou. Sauf que, vous vous en doutez, et lui aussi, il y a un loup et il va commencer une enquête très approfondie et beaucoup plus compliquée et dangereuse qu'imaginée, d'autant que les agents de renseignement sont toujours derrière un mur au bout d'un téléphone, ou en tout cas ils sont là, ils rôdent et ils espionnent. Alors, c'est un film, L'ombre de Staline, qui avait une très bonne presse au moment de sa sortie en salle, qui avait plutôt bien marché. Est-ce que ça vaut le coup de le voir ou le revoir en DVD, Fabrice Leclerc?
Alors, pour la leçon d'histoire, oui, parce que moi j'ai appris beaucoup de choses. C'est évidemment la famine en Ukraine qu'avait orchestré Staline. Là-dessus, Agnieszka Holland sait faire des films choc, elle le fait parfaitement. Il y a des scènes à la limite du soutenable dans le film. Pour le reste, c'est quand même extrêmement alambiqué. Alors, moi, je n'avais pas vraiment compris le grand soutien de la presse à la sortie du film. C'est un bon film, hein, mais c'est quand même... Ça y va à la Panzer Division, si j'ose dire. On convoque même George Orwell pour faire genre dans le film. Enfin, vraiment, il y a un très beau sujet. Il y a un cours d'histoire à faire. Il y a un vrai film de narration et où on apprend des choses. Mais pour le coup, c'est surligné. Surfilmé, parfois surjoué. Voilà, je trouve que c'est un peu limite quand même.
Thierry Chaise, vous faisiez partie des journalistes qui avaient aimé ce film.
Non, pas tellement. Mon journal, oui, mais moi, pas tellement.
Oui, c'est ça,
mais
ce qui me semble bien que dans Première...
Le deuxième confinement est passé par là et Thierry a entièrement changé d'avis.
Dans Première, il y avait une belle critique. Je ne sais plus si c'était vous.
Je ne suis pas Donald Trump, j'accepte. Je n'ai pas fait recompter les notes.
Ombre de Staline. Alors,
c'est le film, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. C'est-à-dire que, comme le dit exactement Fabrice, j'ai l'impression qu'il y a 5 films en un. Alors parfois, ça peut être bien parce qu'on passe de l'un à l'autre. Là, on développe quand même un peu les 5 films et finalement, pas assez chacun. Je trouve ça très... C'est très étouffe-chrétien. C'est-à-dire que la réalisation, c'est empesé. On sent que vraiment...
C'est démonstratif.
J'ai l'impression que c'est vraiment un film qui est fait pour les Oscars du film étranger, en fait. Avec, on sait que les votants ont généralement plus de 70 ans et qu'on s'adresse à ce public-là. Une leçon d'histoire, où j'apprends des choses. Mais que ce... C'est vraiment scolaire, démonstratif et oui, étouffe chrétien. Moi, même en période de confinement, j'ai du mal à m'y remettre.
Je dis quand même que je suis d'accord avec vous, mais c'est aussi un film effectivement sur un pan de l'histoire que c'est quand même joliment fait. Alors certes, c'est un petit peu lourd, mais là encore, pendant ce confinement, alors là, c'est pas pour se vider la tête, ça, je vous l'accorde.
Ah non.
Mais quand même, si on a envie, à un moment donné, si on aime l'histoire, qu'on aime le cinéma d'histoire, etc. On passe pas un mauvais moment.
Ouais, mais enfin, en plein confinement, je pense que c'est quand même légèrement déprimant et un peu lourd à digérer.
Bon, j'ai essayé de sauver l'ombre de Staline. Je n'y arriverai pas. C'est donc également sorti en DVD VOD cette semaine. Clap. Et puis, je voulais qu'on termine, avant que vous nous donniez vos coups de cœur, par Lands of Murders.
Elle n'avait jamais découché ou fugué avant. Quelques entailles. Des coups de couteau, a priori. Il les tue et il les coupe en morceaux. Et les jette dans la rivière. J'aimerais que vous élucidiez cette affaire au plus vite et en toute discrétion. Bienvenue au paradis.
Alors là, c'est un remake d'un film espagnol qui était sorti il y a quelques années. On est dans l'ex-Allemagne de l'Est, 2 ans après la réunification. Et vous avez deux flics, le bon duo qui fonctionne, deux flics que tout oppose et qui vont devoir faire équipe. Alors quand je dis que tout oppose, vous avez Patrick, Jean, basket au pied, la trentaine, il attend un enfant, il a été muté parce qu'il a eu la mauvaise idée d'inculper le frère de son ex-patron pour trafic de drogue. Et il va donc devoir faire équipe avec Marcus, là vous imaginez le mec en costume vintage, pour dire ça gentiment, qui aime bien boire pendant le service.
Un Derrick Dupot.
Voilà, un peu ça, qui a fait toute sa carrière à Rostock. Où Patrick vient donc de le rejoindre et ils vont devoir enquêter sur des disparitions de gamines que l'on retrouve même parfois dans un sale état. Chacun avec sa méthode, c'est donc une Allemagne unie en quelque sorte à travers ces deux personnages qui va devoir résoudre cette enquête. Messieurs, Fabrice Leclerc.
Non, monsieur Fabrice Leclerc. Alors, c'est pas un remake de La Isla Minima, c'est une photocopie couleur de La Isla Minima. Et pourtant, ce qui est assez étonnant avec ce film, c'est que ça fonctionne. Parce que, bien sûr, l'intrigue a été portée en Allemagne, c'est l'Allemagne qui vient tout juste de se réunifier, donc c'est une Allemagne qui est encore loin d'avoir pensé ses plaies. Il y a encore l'Est et encore l'Ouest qui sont comme des espèces de 1984 au-dessus de la tête. Et pourtant, le film fonctionne parce que les deux acteurs sont extraordinaires. Le polar est super bien tenue. Là, c'est un vrai film de genre. C'est assez rare quand même de voir des remakes à ce point photocopiés qui fonctionnent vraiment. Et puis, là encore, un petit cours d'histoire sur cette Allemagne qui tente de se réunifier. C'est un film, de toute façon, sur la réunification, hein, sur le retour. Voilà, la réunification de deux hommes que tout oppose, c'est la réunification aussi de deux pays que tout oppose.
Et c'est la réunification peut-être d'un peuple qui sortira déconfiné dans quelques semaines. Thierry Chaise.
Je partage exactement ce que vous dites tous les deux d'ailleurs. Moi, j'ai vraiment accroché. Alors en effet, on a peur. Quand on a vu La Lista Minima, qui avait été un joli succès,
ouais,
hein,
ouais, en France. On se dit, je vais avoir la même chose.
Simplement, en effet, l'Allemagne n'est pas l'Espagne. Et ce qui fonctionne là, pour le coup, contrairement au Agnieszka Hollande, c'est qu'il y a un vrai mélange des genres réussis entre vraiment l'enquête où on est vraiment accroché, ouais, et puis tout ce qui se passe, en effet, au niveau historique, avec une ambiguïté permanente. C'est-à-dire que, avec leurs deux méthodes différentes, on se dit qu'à un moment, il y a aussi qui est le ripou, qui ne l'est pas. Et je trouve que tout ça, ces trois points avancent très bien, qu'il n'y a pas de temps mort du tout, qu'on est assez soufflé. Alors, c'est peut-être moins brillamment mis en scène, mais en effet, sur l'interprétation, ouais, je suis assez soufflé, parce que ça pourrait être vraiment des caricatures. Et l'ambiguïté tient justement au fait que tout ça se craquelle et que celui qu'on pensait être n'est pas forcément celui qui. Enfin voilà. Non, c'est pour le coup à voir.
Et oui, si vous aimez ce genre de film, vraiment, n'hésitez pas. Là aussi, DVD, VOD, soit vous commandez le DVD, soit vous louez ça sur votre box. Mais en tout cas, regardez Lands of Murders.
Clap.
Et pour finir, tiens, puisqu'on est à quelques semaines quand même de Noël, il faut préparer Noël. Je voulais qu'on fasse une petite séquence toute simple, mais c'est j'achète pas. Messieurs, je vais vous proposer des coffrets DVD chaque semaine.
Allez.
Puisqu'on en reçoit, il faut bien le dire à nos auditeurs, beaucoup chaque semaine. On nous sollicite beaucoup pour des coffrets DVD. Parce que je crois que c'est à peu près le seul moment Noël où ils vendent encore des DVD. Alors là, aujourd'hui, je vous propose le coffret qui quand même se nomme Peine de mort, édité par Warner. Il y a quatre films dedans. La Voix de la Justice, qui était sorti en début d'année, porté notamment par Michael B. Jordan. La Ligne Verte, avec Tom Hanks, bien sûr. Jugé coupable, 2 et avec Clint Eastwood, et Les Évadés avec notamment Morgan Freeman, ça vaut 25 balles. Est-ce que ça vaut le coup, Fabrice Leclerc ?
Non, parce qu'on a... non, mais on a déjà vu ces films plusieurs fois, sauf celui qui est sorti en début d'année, c'est du repackaging. Après, moi, je vous conseille d'attendre un autre coffret Warner, qui est celui de l'intégrale des films de Clint Eastwood, qui arrive dans quelques jours, semaines. Voilà.
Thierry Chaise ?
Moi non plus, je ne prends pas, parce que moi c'est surtout à cause des films qu'on a vus en début d'année en fait. À la limite, on peut offrir à ceux qui ne l'ont pas vu, notamment Les Évadés et tout ça. Mais
et puis Les Évadés, il faut arrêter, ils passent tous les 15 jours sur les chaînes de télé.
Mais celui qui
j'ai l'impression
ça,
de voir ce film toutes les semaines en zappant.
Mais celui qui est en train d'écouter Europe 1 pendant la diffusion, voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il a son cadeau, Les Évadés en DVD, il est content.
Ouais. Ouais. Bon, un petit coup de cœur, messieurs. Fabrice Leclerc, qu'est-ce que vous nous conseillez ?
Ah bah d'après vous, The Mandalorian, évidemment. Saison 2
Disney Plus,
disponible sur Disney Plus, un épisode de chaque semaine, chaque vendredi, bien sûr le spin-off de Star Wars, et je l'ai dit à la première saison, je le redis à la deuxième saison, quel bonheur de retrouver le côté cracra western totalement endiablé qu'on avait connu avec la guerre des étoiles. À ce moment-là, Jon Favreau arrive à retrouver cette patte qu'avait George Lucas en 1977. Quel plaisir, et puis évidemment Baby Yoda, je ne dis que ça, et voilà.
Thierry Chaise, votre conseil du jour ?
Moi, j'irai sur Netflix avec Les 7 de Chicago, pour rester dans l'actualité américaine.
Ouais.
Le procès qui a eu lieu en 69, où l'administration Nixon voulait s'en prendre aux gauchistes en tout genre. C'est une sorte de ouzou du gauchisme, des manques de Black Panther à des anarchistes et tout. Et ce procès, qui devait être la victoire éclatante de Nixon contre ces gens-là, a été un tel bazar que la victoire était des gens de gauche. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que, en parlant de 69, évidemment, 1969, Aaron Sorkin, le créateur de la Maison Blanche, parle de l'Amérique d'aujourd'hui, à la fois pour l'opposition entre Trump et ce qu'il considère comme les gauchistes, et puis pour la division des gens de gauche, puisqu'on peut retrouver vraiment entre Biden et Bernie Sanders les mêmes oppositions à l'époque. C'est assez passionnant, c'est moins bien mis en scène que lorsque Fincher, évidemment, qui s'empare de ces scénarios. Mais il y a un tel plaisir du verbe et des dialogues que c'est quand même tout à voir.
Sacha Baron Cohen.
Joseph
Gordon-Levitt, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes acteurs extraordinaires.
Les 7 de Chicago, ça c'est Netflix. Et puis The Mandalorian, c'est la deuxième saison déjà sur Disney+. Fabrice Leclerc qu'on lit dans Paris Match, Thierry Chaise dans Première. Merci beaucoup messieurs.
Merci à vous
d'être venus. Vous gardez bien les masques. On continue à regarder des films en DVD, VOD chaque semaine et on vous les commente dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Et même si les salles sont fermées, on continue de vous le raconter, de vous donner envie. J'espère d'y retourner dès qu'elles rouvriront. Merci beaucoup à Nicolas Baudin qui réalise cette émission, Marjorie Adelson qui la prépare. N'hésitez pas aussi à nous podcaster. Vous trouvez ça sur toutes les plateformes. Vous tapez Clap. Rendez-vous samedi prochain, 14h-15h sur Europe 1. D'ici là, bonne semaine.
Europe 1.